Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Combien de temps passez-vous sur votre smartphone, sur les applis, sur les réseaux sociaux? Beaucoup trop, peut-être, comme votre serviteur, avec l'illusion de contrôler l'usage. J'arrête quand je veux, hélas, dans nos rêves. Selon une enquête internationale récente, nous passons en moyenne 3h30 par jour sur notre téléphone portable. En moins de 20 ans, ce couteau suisse magique est devenu une expression, une extension de nous-mêmes, une sorte de prothèse qui nous accompagne du réveil au coucher, et quand nous en sommes dépossédés, nous avons l'impression d'être coupés des autres et du monde, avec la sensation de rater mille et une choses qui nous apparaissent comme vitales. Ce matin, vous verrez comment les smartphones et les réseaux sociaux manipulent notre cerveau. Et vous, comment faites-vous pour en déjouer les sortilèges? Comment vous sentez-vous si vous en êtes privé pendant toute une journée? 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Zonshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité de Femmes Actuelles. Que serait un mardi sans vos questions pertinentes? Qu'est-ce qu'il y a au programme?
Je crois surtout qu'après cette émission, je vais supprimer pas mal d'applis de mon téléphone.
Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Psychiatre, vous remplacez Christophe André cette semaine. Quel est le menu de vos choses vues?
Une tranche de vie, cher Ali.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Snap.
Insta.
Netflix.
Twitter.
MSN, je crois que ça existe encore.
La première chose que je fais quand je me lève, je check mes réseaux sociaux. Instagram, Snap, Facebook. Les actualités, les pages, le nombre de likes, les messages que j'ai pu recevoir.
Combien d'heures à peu près par jour?
Peut-être quand même 5 heures par jour.
Le téléphone, si on me l'enlève, ben, j'ai plus de vie. Parce que je fais tout avec.
Je me sens tirée, un manque de quelque chose. C'est vraiment une addiction pour moi.
Je stresse quand je l'ai pas sur moi. Mais genre, même si je suis chez moi et que je vais dans une autre pièce, je me dis, ah mince, mon téléphone, je vais le chercher. Alors j'en ai pas forcément besoin, mais j'ai besoin d'avoir avec moi.
Je pense que c'est aussi une addiction. C'est pas normal qu'on y retourne comme on le fait, alors que l'apport est minime, quoi.
Bonjour Mickaël Stora.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicien et psychanalyste, spécialiste des addictions et du numérique, et vous publiez chez Larousse « Réseaux asociaux », sous-titré « Addiction, frustration, enfermement sur soi, obsession de la compétition, fake news, complotisme, si les réseaux sociaux nous rendaient asociaux ». Quel programme !
Oui, oui, c'est vrai que j'ai toujours été un optimiste et finalement,
ça se sent.
Voilà, comme vous l'entendez, j'aime la vie et voilà, en tout cas, les réseaux sociaux, je pense qu'à force d'y être, nous renvoient à quel point nous sommes seuls. Et je crois que c'est un peu ça, malheureusement, que ça montre. Au-delà, on pourra rentrer dans le détail sur la manière dont, paradoxalement, il crée aussi des clivages au sein même de notre société.
Bonjour Catherine Lejal.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au groupe ISC Paris, et vous avez publié il y a quelques années chez Erol « J'arrête d'être hyper connecté ». Bonjour Cécile Lestienne.
Bonjour Ali.
Vous êtes directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho. À la une, smartphones et réseaux sociaux, les 6 biais cognitifs qui rendent accro. Merci de remplacer au pied levé notre ami Sébastien Boller. Tiens, en quelques mots, c'est quoi un biais cognitif, Cécile Lestienne, parce qu'on va y revenir largement ce matin?
Eh bien, c'est toutes les configurations que nous avons dans notre cerveau qui font que nous prêtons attention à certaines choses et pas à d'autres, que nous interprétons les choses d'une certaine façon. Et c'est très utile parce que ce sont souvent des raccourcis qui nous permettent d'aller plus vite et qui sont moins gourmands en énergie, en fait. Mais il faut s'en méfier parce que ça peut nous entraîner dans des spirales qu'on n'a pas forcément voulu.
Alors hier, nous avons consacré une émission aux addictions, une véritable maladie chronique, Mickaël Stora. Ce dont nous parlons ce matin, c'est plutôt d'un hyper-usage de nos téléphones et de nos réseaux sociaux. L'hyper-usage ne veut pas dire que l'on est addict, même si on y passe en moyenne plus de 3 heures par jour, 3 heures et demie pour être précis, selon une enquête internationale de la société App Annie en 2021. 3 heures et demie en France et en Allemagne, contre plus de 5 heures tout de même au Brésil. Addiction ou hyper-usage?
Ou usage problématique, ouais. Ou excessif, ou dépendance, ou compulsif. J'avoue que là, on rentre dans une discussion très psychiatrique sur les classifications qui nous donneraient ou non l'autorisation de parler d'addiction. Lorsqu'on voit à quel point des cursus entiers sur la captation de l'attention des réseaux sociaux, puisque c'est quand même leur vocation, font que au bout d'un moment, on peut se poser la question à quel point il n'y a pas derrière un désir de faire qu'on a du mal à décrocher.
Mais vous qui suivez de véritables addicts aux jeux vidéo, par exemple, l'usage des smartphones du commun des mortels ne s'apparente pas à une addiction.
Oui, alors c'est vrai que justement, à nouveau, hein, l'OMS a reconnu officiellement la pratique du jeu vidéo en ligne comme une vraie addiction. Mmh. Ce qui entraîne, comme vous le savez, aussi un processus de remboursement. Et ça aussi, c'est très important. Mmh. Maintenant, oui, c'est évident qu'on peut pas évidemment parler d'un point de vue purement psychiatrique d'addiction. Néanmoins, lorsqu'on s'intéresse aux addictions dites comportementales, on l'a pu voir avec le sport ou d'autres choses, on peut se poser la question s'il n'y a pas une sorte d'autocalmant, qui est une autre manière de parler d'hyperusage, c'est-à-dire comment le portable, à un moment, va me permettre d'éviter de penser, d'être une forme d'antidépresseur, et à partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a une forme d'addiction.
Le regard de la psychiatre Aurélia Schneider.
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'addiction, c'est particulier parce qu'il y a des critères, mais quand même, on est amené à constater qu'il y a un besoin. Et ce besoin, ce qui était décrit très très bien dans le petit micro-trottoir là, c'est je suis dans une pièce et en fait je peux pas me passer de ça.
Tout à fait. Et puis, en tout cas, lorsqu'on a commencé vraiment à réfléchir aux addictions virtuelles, on s'est rendu compte que c'est pas forcément en termes de temps passé, mais c'est en termes de rupture des liens sociaux. Et c'est très étrange parce que les réseaux sociaux sont censés être des réseaux qui finalement propose une forme de socialisation qui reste virtuelle. Mais lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux dans le monde bien réel, on se rend compte à quel point il y a un isolement qui peut faire penser à d'autres types d'addictions.
Alors je vais vous raconter une anecdote absolument passionnante. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon téléphone pendant une demi-journée et j'ai eu l'impression d'être coupé du monde, plus d'accès aux applications, à mes proches, à mes journaux, à mes séries, à mes moyens de paiement, à la possibilité de commander un VTC, de consulter un moteur de recherche, d'écouter la radio ou un podcast, de prendre des photos, de compter mon nombre de pas. Heureusement que je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression de rater quelque chose. Je n'étais pas particulièrement stressé, mais j'avais quand même l'impression d'être amputé de quelque chose, Catherine Lejal.
Oui, tout à fait. Alors moi aussi, je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que le Covid nous a fait aussi prendre, nous a permis, avec tous ces outils, de finalement organiser des apéros Zoom, mais nous a aussi permis de nous rendre compte de vraiment la valeur d'un moment réellement partagé, d'un rire autour d'un verre. Et donc je pense que ça, c'est l'effet positif.
Mais sur cette sensation d'amputation, quand on perd son portable, quand on nous l'a volé, quand on l'a oublié.
Tout à fait. Les gens disent bien, je suis mort. C'est vraiment une mort sociale. Il faut bien voir que ces usages apportent des bénéfices utilitaires. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé l'horaire du RERC pour pas attendre 18 minutes. Donc ça fait gagner du temps, entre guillemets, qu'on nous remplit. Des usages surtout très hédoniques. C'est divertissant, c'est amusant. On regarde les séries, les stories des uns des autres. On regarde ce qu'ils ont. Et puis, c'est social, c'est du partage. On prend des photos, on partage, on existe. Les gens vont réagir autour de ce qu'on poste. Donc, c'est vraiment son inclusion dans le monde, en fait.
Docteur Schneider,
se oui, vous avez oublié de dire tout à l'heure que vous n'aviez plus l'heure, vous ne pouviez pas regarder l'heure. Et en fait, c'est un vrai problème. On n'a plus de montre.
Bien sûr.
Michael Stora.
Non, je voulais vous montrer que j'avais une montre. C'est important. Non, je crois qu'en effet, il y a bien longtemps, j'avais réfléchi, puisque je travaille plutôt avec des enfants sur la problématique, vous savez, du doudou. J'avais parlé du doudou sans fil et on sait à quel point c'est un objet qui nous permet de se pallier à des absences. Mais en même temps, Alice, si j'ai bien saisi, vous utilisez plutôt des applications utiles. Finalement, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux.
Non.
Mais il faut savoir que ce qu'on utilise le plus sur son portable, ce sont les SMS et les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que s'il y a une forme d'addiction, elle peut être à l'autre. C'est-à-dire à cet autre ou ce grand autre qui nous permet de vivre quelque chose de familier. Et je crois que finalement, si je prends la même rue tous les jours, je vois tel commerce. Et si un jour ce commerce n'existe plus, c'est un peu comme si j'avais perdu mon portable. C'est-à-dire que je me retrouve dans quelque chose qui ne, une sorte de sentiment d'inquiétante étrangeté.
Plus de la moitié des Français déclarent ne pas pouvoir se passer de leur téléphone pendant une journée. Alors vous parlez de doudou numérique, mais ça peut répugner cette idée de doudou numérique. On est quand même des grandes personnes, des adultes.
Vous croyez?
Moi, je pense qu'il y a 50% de menteurs dans
le sondage. Là, c'est le psychanalyste qui parle. Là.
Non, parce que vous savez...
Non, ça peut répugner cette idée-là.
Le doudou, vous répugnez?
Oui, le doudou.
Ah, d'accord.
Non,
okay.
L'idée du
d'accord.
Doudou numérique.
Oui, oui. Moi, je pense, ça va même plus loin, je pense que Facebook est un doudou pour beaucoup de personnes, que beaucoup de réseaux sociaux sont des formes de grands doudous. Vous savez, la question de la matrice n'est pas loin. Au fond, il y a eu des études qui ont montré que les gens n'arrivent pas à décrocher, même s'ils ont peur de leurs données personnelles. Et je m'étais amusé une fois à dire Facebook, c'est un peu comme ta mère, t'as envie de la quitter, mais t'y arrives toujours pas. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un peu prisonnier de quelque chose d'assez irrationnel.
Mais j'ai l'impression qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière et que c'est peut-être un leurre de vouloir se déconnecter, Catherine Lejal.
Ah oui, moi, votre sondage où il y a que 50% des gens qui disent « je peux pas m'en passer », je pense qu'il y a 50% de menteurs. parce que c'est tout à fait cette idée de doudou, donc d'objet de Winnicott, où finalement, on peut plus vivre, on peut vivre seul. C'est, pour moi, c'est un coffre à jouets aussi, avec plein de choses. Il y a toujours des notifications, il y a toujours des choses à voir. Donc, on sera jamais seul. Et cette peur de la solitude, finalement, on ne l'a plus. Et on existe parce que les autres nous renvoient des likes. Et les études montrent que ça ne touche pas simplement les jeunes qui sont peut-être en fragilité de construction identitaire ou les personnes particulièrement narcissiques. C'est chacun de nous, finalement, en permanence, on remet finalement notre propre valeur à un petit peu comme ça, comme sur la place publique. Et si on n'a pas de message, si on n'a pas eu de retour sur ce qu'on a posté, on a l'impression que personne ne nous aime. Et c'est ça qui est assez grave. C'est que sur la grande majorité de la population qui n'a pas particulièrement un problème de narcissisme ou d'ego, qui est assez âgée, a déjà réussi et entouré, continue à être dans cette fragilité-là.
Oui, non, mais c'est terrible ce qu'a inventé Facebook, entre autres. C'est quand même le plus grand des réseaux sociaux, c'est-à-dire cette question de mettre une sorte de ranking, de classement.
Ranking?
De classement, c'est-à-dire d'ordre, finalement, non pas forcément sur ce qu'on produit, mais sur ce que l'on est. Parfois, c'est une grande banalité, ce que les gens posent. Donc ça, c'est terrible, parce que ce like est un monstre. D'ailleurs, même celui qui a inventé le like a fait une sorte de coming out en disant, excusez-moi, j'ai inventé quelque chose d'assez monstrueux. Et cette forme de classification qui pousse à des formes de comparaison, engendre aussi beaucoup d'effondrement.
Alors, ce qui est diabolique avec les smartphones, les réseaux sociaux, c'est qu'ils nous procurent du plaisir. Ce sont des pâtisseries pour notre cerveau, Michael Storr.
Oui, alors, c'est intéressant, parce que là, on est passé du coffre à jouets à la pâtisserie. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, en même temps, il y a une sorte de variation sur le même thème, hein. C'est-à-dire, on pourrait se dire, tiens, il y a que des éclairs, peut-être au chocolat ou autre, mais d'une certaine manière, on se rend bien compte que lorsqu'on scrolle indéfiniment son fil, on est à peu près, puisque grâce aux algorithmes ou à cause des algorithmes, on est enfermé dans quelque chose qu'on aime. C'est un peu comme cette publicité pour une application de musique, on va vous faire aimer la musique que vous aimez. On est un peu dans quelque chose qui nous enferme et qui nous empêche peut-être d'avoir accès à la différence. Et la différence est parfois gênante, mais qu'est-ce qu'elle est plutôt enrichissante.
Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, dans ce circuit du plaisir? C'est la dopamine qui est en jeu, hein, c'est ça, hein.
Oui, enfin, exactement, pour revenir sur l'addiction au like, là, dont j'étais parlé juste dernièrement, ce qu'on a montré, c'est que ça activait le système de la récompense. Voilà. Et on le voit très bien, et notamment certaines parties du système de la récompense, le noyau accumbens, c'est le striatum ventral. Et on a fait, des chercheurs ont fait une corrélation entre le volume de ce fameux noyau accumbens, voilà, et l'addiction, notamment aux visites sur la page Facebook, par exemple, voilà. Et donc, il semblerait que voilà, plus vous êtes addict, plus votre noyau accumbens est petit, voilà. Et en même temps, là, la question, c'est toujours la même question de l'œuf et de la poule. Est-ce que vous êtes devenu addict parce que votre noyau accumbens c'était plus petit, ou est-ce que le fait de fréquenter comme ça et d'être totalement accro au like qui vous renvoie effectivement un bon statut social a comme ça opéré votre système de la récompense, on ne sait pas encore.
Catherine Lejal, un premier conseil peut-être si on souhaite moins dépendre de son smartphone, de ses réseaux sociaux tout au long de la journée?
Alors, c'est peut-être couper déjà les notifications.
Ça, c'est important.
Parce que,
ça, c'est la base.
Oui, parce que les notifications, c'est des choses très alléchantes et très attirantes. Et on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être extraordinaire. Alors qu'en réalité, comme on le disait, il y a des bulles cognitives et on est enfermé dans ce qu'on pense. Et on est dans aussi... alors que Internet pourrait être finalement un espace extraordinaire d'apprentissage, de connaissances, on est dans l'opinion également. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une information vérifiée, mise en perspective, mais dans de l'opinion, donc de l'émotion, de l'affectif, et pas quelque chose finalement de scientifiquement rationnel. Donc couper les notifications, ça me paraît la première chose, parce que il y a un thème qui me paraît important, c'est le rapport au temps. C'est que finalement, ces usages devraient nous faire gagner du temps. En réalité, ils sont plus une production à burn-out, c'est-à-dire à nous épuiser, parce qu'il y a une injonction à toujours répondre, à toujours produire de la nouveauté, parce que dans ce ranking, en fait, il faut poster quelque chose de récent. Et il y a de façon pernicieuse une préférence pour le poste récent par rapport au poste ancien. Or, soi-même, on a sa permanence ontologique qui fait qu'on change pas comme ça tout le temps. Et il y a cette incitation à de la nouveauté, à poster quelque chose de nouveau qui me semble problématique.
C'est vrai que j'ai testé le fait de débrancher toutes les notifications de mon téléphone et c'est vrai que ça change la vie tout de même à Michael Stora.
Oui, c'est évident, hein, on est censé avoir un rapport presque au doigt et à l'œil de maîtrise sur notre portable et on se rend compte petit à petit que c'est lui qui nous maîtrise. Et c'est vrai que par rapport à la question des conseils, moi j'ai plutôt comme toujours choisi la voie de m'adresser finalement à une forme de prise de conscience de l'utilisateur. Maintenant, il y a eu des événements comme au mois d'octobre, où tout d'un coup Facebook a buggé.
Et donc, c'est vous qui buguez là.
Oui, je bug là. Et là, à ce moment-là, c'était intéressant parce qu'il y a eu une forme de prise de conscience.
Oui, c'est vrai que je crois que c'était début octobre, oui. Et donc Instagram, WhatsApp, Facebook étaient inaccessibles.
Complètement, totalement inaccessibles. Et c'est étrange de voir à quel point, à ce moment-là, pour les personnes qui utilisent de manière souvent très quotidienne, ils ont été confrontés à un manque terrible. Et je crois que cette problématique, c'est intéressant. C'est à ce moment-là qu'il y a une forme de prise de conscience.
Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, je reviens auprès de Cécile Estienne par rapport au dossier que vous avez mené donc dans Cerveau et Psycho. Vous parlez notamment de la dépendance par rapport aux traits de personnalité de chacun. Autrement dit, est-ce que nous sommes finalement tous dépendants de la même façon, quel que soit notre caractère dominant, homme ou femme d'ailleurs? Est-ce que les usages sont les mêmes? Est-ce que les comportements sont les mêmes?
Non, probablement pas, évidemment. Nous ne sommes pas tous égaux devant les addictions, comme nous ne sommes pas tous égaux devant les addictions en général. Hein. Voilà. Ce que les études montrent par rapport à l'addiction aux smartphones, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à tout cet univers-là, qui est quand même très récent, hein. Si on se souvient, les smartphones, c'est 2007, si je ne me trompe pas, c'est quand même extrêmement récent, et le monde entier est devenu accro depuis, mais... Donc, parmi les traits de personnalité qui semblent, être plus propices à l'addiction au smartphone, il y a le faible degré de consciosité. C'est un trait de personnalité, c'est le fait d'être méticuleux, d'être organisé, d'être ponctuel, voilà. Si vous n'êtes pas trop comme cela, vous avez probablement plus de risques de devenir accro. Voilà. Aussi, si vous avez évidemment une faible maîtrise de vous-même, ça paraît assez logique. Voilà. Souvent aussi, on s'aperçoit que les gens qui sont le plus sur les réseaux sociaux sont souvent des gens qui sont pas très coopératifs, pas très confiants, pas très compatissants. Voilà, ça donne pas une image très positive, on va dire, des gens addicts. Or, nous sommes tous addicts, moi la première, donc, mais il faut regarder ça en face. Voilà. Et effectivement, il y a un biais de genre. Les hommes étant en général plus accros aux jeux vidéo, y compris les jeux vidéo sur leur smartphone évidemment, et les femmes plus à leur téléphone au sens large, réseaux sociaux, messages et tout ça.
Alors en tout cas, les géants du numérique savent à merveille exploiter nos failles humaines, Michael Stora. Vous prenez le formidable exemple des trois petits points ou de la petite phrase, là, quand on écrit un texto, un message, XY est en train d'écrire. Et cette fonctionnalité, elle peut paraître très banale et pourtant non.
Oui, évidemment. Là, j'ai voulu m'intéresser au design même, de la manière dont, en fin de compte, les réseaux sociaux, les applications, ou entre autres les messageries, ont été construites pour se rendre compte à quel point il vient nous renvoyer à la capacité à supporter la frustration. Les trois petits points, il ne répond plus. Surtout si on envoie des messages très intimes. Je t'aime, ma chérie, je pense à toi. Si la personne reste éternellement dans un trois petits points, ça réinterroge peut-être même le lien amoureux. Donc c'est vrai que c'est très étrange de voir à quel point ces fonctionnalités-là nous renvoient à des positions de manque.
Ça fait surgir certaines émotions. C'est ça qui est absolument terrible. Ouais. Si Aurélia est en train de m'écrire un SMS que les trois petits points se prolongent et que finalement elle ne m'envoie pas de message, je vais être très frustré et ça va faire naître certaines émotions dites négatives.
Bien sûr.
Oui. Et ça va donc également m'obliger à guetter une réponse qui ne viendra peut-être jamais. Ça va renforcer le fil à la patte.
C'est ça.
C'est une fonctionnalité banale, mais qui crée des affects très puissants.
Alors, c'est toujours intéressant de savoir, est-ce que les gens qui ont inventé cette fonctionnalité avaient en tête cette idée que finalement, Internet, c'est une sorte de contraction espace-temps qui fait qu'on a besoin d'avoir une réponse rapide et qu'on est convoqué un peu comme un nourrisson qui crie parce qu'il souhaite manger. Et qu'est-ce qui se passe si le sein ne vient pas? Et donc, on se rend compte que, d'une manière globale, bah, si la personne ne me répond pas par SMS, je vais aller sur les réseaux sociaux pour compenser. C'est-à-dire qu'on veut avoir un sein qui vient nous gratifier éternellement.
Aurélien Schneider.
Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, c'est l'ennui.
Oui.
Nous ne sommes plus capables de nous ennuyer. Et dès que nous avons une seconde, nous dégainons le téléphone. C'est terrible, ça. L'arrêt de bus, des moments où
la
on pourrait rêver.
Chez
la salle d'attente
dans votre cabinet.
Voilà, exactement.
Parce que vous prenez du temps avec vos patients, donc
oui,
du coup,
oui,
dans la salle d'attente.
Oui, oui, voilà. Alors non, il y a d'excellents livres, ils se plongent dans... Non, mais en fait, on n'est plus capable de laisser notre cerveau rêver sans rien, quoi, sans support. Et c'est un vrai problème.
Catherine Lejal.
Oui, pour moi, ça me paraît un vrai, vrai problème. Parce que tout ce qui va être l'imaginaire, la créativité, vient de la vacance, la vacuité, c'est-à-dire la possibilité, à un moment, de ne pas se remplir de quelque chose que la machine a décidé. Parce que c'est souvent la machine prend le contrôle et elle vient te dire ce qui est bon pour toi. Donc déjà, c'est à toi de décider d'aller parce que tu t'intéresses à quelque chose, tu prépares un voyage. Mais on va en permanence se remplir de quelque chose sans avoir cette disponibilité pour rêver, pour créer par soi-même en fait.
Oui, et on s'est aperçu que en faisant des examens assez poussés sur le plan de l'imagerie dans d'autres contextes, que des gens qui avaient été laissés un peu de côté parce qu'on faisait d'autres expériences, donc ils n'avaient aucune consigne sur le plan cérébral de fonctionner de telle ou telle façon, avaient une richesse de fonctionnement cérébral complètement inattendue. Donc c'est là que notre cerveau travaille quand il est en roue libre.
Oui, j'aimerais rajouter, parce qu'au fond, moi je pense que ce problème d'ennui existe depuis bien longtemps. On se rend compte à quel point il y a eu des études qui ont montré qu'on ne supporte plus que les bébés pleurent, que les bébés s'ennuient, depuis 20-30 ans. C'est-à-dire que cette sorte de surattention du bien-être de l'enfant a fait que l'enfant a aussi du mal à se représenter l'absence. C'est un des fondements. C'est sans image l'absence. Et finalement, je pense que les réseaux sociaux sont venus, se sont engouffrés dans cette problématique sociétale qui fait que l'être humain n'arrive plus à se confronter à l'absence.
Deuxième conseil donc ce matin, laissez votre esprit rêvasser.
Divaguer.
Ou ayez un très bon livre dans votre sac, dans la salle d'attente ou bien dans le métro. Voilà. On va continuer à décortiquer un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau avec l'usage des réseaux sociaux et des smartphones. Et on écoute en attendant Stéphane Escher, Déjeuner en paix. C'était en 1991, il y a 30 ans déjà.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin. Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. We'll be right back. journal du matin. Les nouvelles sont mon reste où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Viens de monter soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Stéphane Echer, Déjeuner en paix, c'était en 1991 et Marie-Laure Zonshine ne se souvient pas de ce qu'elle faisait en 1991.
C'est tellement loin,
Mais non.
My name is Christine, I am a taxi driver.
Grand bien vous fasse.
And I need your help because I need for my notation on the site web.
Ali Rebéi.
I need more staff, you see what I mean? Can you help me?
Sur France Inter.
You can help me, how much is it for one click?
10h32, quand nos téléphones et nos réseaux sociaux manipulent notre cerveau. C'est notre thème ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Comprendre pour mieux se détacher de ces joujoux, de ces doudous numériques. Tiens, comment faites-vous pour ne pas vous laisser ensorceler? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Alors on va décortiquer les moyens que les entreprises du numérique utilisent pour nous retenir dans leur filet. Quand on passe du temps sur Facebook, Twitter, Netflix, YouTube, TikTok, on ne voit pas du tout le temps passer. Et Mihaly Csikszentmihalyi, c'est un célèbre psychologue américano-hongrois, appelle cela l'état de flow, l'état de flux en français. Il s'agit d'une sensation de bien-être, de plénitude quand on est complètement absorbé par une activité. Et c'est le cas, Michael Stora. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien.
Ouais, c'est vrai, il y a une sorte de flow. Alors moi, je fais pas mal de comparaisons dans mon livre sur la relation entre une mère et un bébé et la personne qui est sur les réseaux sociaux. Et il y a un concept qui est très intéressant qui s'appelle l'accordage affectif, qui a été inventé par Daniel Stern. Et il évoque cette sorte de flow entre la mère et le bébé quand ça se passe plutôt bien, où finalement, sur une même variation, la mère et le bébé vont finalement interagir. Avec parfois le bébé qui est en quête toujours un peu de nouveauté. Il faut qu'il y ait une variation sur le même thème. Et ben moi, je retrouve la même chose exactement lorsqu'on est sur un réseau social où on scrolle indéfiniment.
Scroller,
c'est-à-dire finalement faire descendre le fil.
Défiler.
Qui est un design aussi incroyablement addictogène, hein, tout de même, puisque c'est infini. Une sorte de persistance du lien et du fil qui fait que ça ne s'arrête jamais. Et au bout d'un moment, c'est évident que très souvent, quand on interroge quelqu'un, il ne sait plus du tout le temps qu'il y a passé. Et cette dimension atemporelle est quelque chose qui est aussi propre à l'inconscient.
Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho, sur cet état de flow, quand on passe énormément de temps sur son smartphone, c'est vrai que voilà, on passe du temps, puis voilà, une heure, deux heures ont passé, on les a pas vus défiler. Expliquez-nous un petit peu.
Effectivement, il y a des études ont montré que beaucoup de participants, enfin, que sur des études, montraient que les participants sous-estimaient un facteur 3, le temps passé sur leur téléphone. C'est quand même beaucoup, hein, d'un facteur 3. Et en même temps, c'est un peu normal parce que cet état de flow, c'est le contraire de l'ennui dont vous parliez tout à l'heure. C'est l'état où vous êtes au contraire bien et vous êtes très concentré, totalement impliqué dans ce que vous êtes en train de faire et vous ne sentez effectivement plus le temps passer. Et c'est évidemment que les auteurs de ces plateformes font tout pour que vous restiez dans cet état de flow le plus longtemps possible. Et c'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, nous ne savons plus faire autre chose, parce que je voulais rappeler une expérience assez célèbre qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années. On demandait à des participants juste de rester assis sans rien faire. Et les gens trouvaient ça très désagréable. Et dans une des modules de cette expérience, ils avaient le droit de se donner des petites décharges électriques ou de rien faire. Et ben la plupart des hommes, en tout cas, moins les femmes, préféraient se donner des décharges électriques plutôt que de ne rien faire juste pendant un quart d'heure.
Docteur Aurélie Schneider, psychiatre.
Oui. Alors moi, je voudrais parler du flow et de la procrastination. C'est de la porte ouverte à la procrastination. Vous savez ce que c'est? C'est le fait de différer des tâches qu'on doit faire qui nous embêtent un peu.
De remettre au lendemain.
Voilà, de remettre au lendemain. Et ça, c'est l'autoroute, les portables, les réseaux, tout ce flow justement, cette espèce de bien-être un peu factice quand même.
Catherine Lejal, sociologue.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de très divertissant et de très amusant, en fait. Il y a de la curiosité, et on a l'impression, en scrollant, qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et là, on n'a pas encore parlé des métaverses, donc qui sont ces univers de réalité étendue, dans lesquels on va complètement s'immerger, qui sont des réalités. Il y a des concerts, Justin Bieber fait des concerts. On peut se créer son petit avatar et aller visiter le coffee shop de Ralph Lauren, s'acheter des vêtements virtuels. En ce moment, je travaille là-dessus. Des gens qui achètent. Alors c'est des baskets Gucci, vous postez des baskets Gucci que vous ne pouvez que porter sur les selfies. Et là, Gucci vient de vendre plus de 4000 euros un sac Gucci que l'on ne peut que porter sur des selfies et qui est 4 fois plus cher que le sac de la réalité. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, au lieu de vivre des choses dans la vie hors du clavier, on va complètement s'immerger, où tout est possible finalement, son petit avatar.
Il faut citer Prada et Saint-Laurent, vous avez cité Gucci. Comment prendre conscience de tout ce temps passé sur nos smartphones, sur nos réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut se mettre, ça peut paraître un peu bête, un minuteur de se dire, voilà, je mets 15 minutes, 30 minutes, et ça me rappelle que peut-être il faut revenir à la vie réelle. Comment on s'y prend, soyons pratiques ce matin, pour essayer de passer moins de temps sur ces joujoux doudous numériques?
Alors, il y a eu des études qui montrent que les gens, quand ils passent trop de temps, se sentent coupables au bout d'un moment. Alors, c'est intéressant, une sorte de culpabilité qui fait qu'on commence à se dire, mais finalement, tout ça est vain, c'est totalement creux. Souvent, c'est l'autre aussi, l'autre, le conjoint, les enfants, qui parfois, parce qu'on parle des enfants et des ados, mais les parents sont beaucoup plus connectés que les enfants. Et finalement, de voir que c'est parfois les enfants qui disent, mais tu m'écoutes pas, tu es sur ton portable. Donc souvent, je pense qu'il y a des techniques. Après, la question du minuteur, pourquoi pas, l'autorégulation est compliquée chez l'être humain. C'est d'autant plus s'il a une nature addictive.
Comment faire?
Écoutez, moi, je dirais lire mon livre, par exemple. Qui est une manière intéressante de pouvoir prendre la distance. Je crois beaucoup à la capacité d'élaboration de l'être humain.
Catherine Lejal.
Ça dépend ce qu'on y fait aussi, parce que si on écoute des podcasts de France Inter, des choses intéressantes...
Oui, on peut passer des heures, allez-y, faites-vous plaisir.
Et si c'est pour accéder, écouter de la musique, tout est pas... Alors du coup, c'est pas vraiment aller sur les réseaux sociaux, c'est aller écouter de la musique, aller écouter des contenus intéressants. Parce que ce que t'écoutes au Suisse, c'est qu'il a aussi remplacé beaucoup de choses. On n'a plus de lecteur MP3, on n'a plus d'appareil photo, etc. Donc ça dépend aussi ce qu'on y fait, en fait. Tous les usages sont pas forcément à jeter.
Moi, juste pour dire, je n'ai plus de réseaux sociaux, je n'y suis plus, mais pour une bêtise, entre autres, c'est parce que j'ai perdu mon mot de passe ou j'ai été hacké. Mon fils a tenté de me refaire un nouveau mot de passe et je n'arrive pas à le retrouver. Ça fait 6 mois.
Comment donc, vous sentez, tiens, honnêtement?
Eh ben, franchement, très bien. Non, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est vrai, c'est que donc demandez à votre ado de vous embrouiller votre mot de passe ou à vos enfants et vous allez voir, c'est assez amusant.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, deux questions toujours sur ces conseils pour essayer d'être moins dépendant. Vous parliez tout à l'heure, Michael Stora, du design. Est-ce que le fait, par exemple, de passer en noir et blanc ou en gris, en nuance de gris, je crois qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus, changerait quelque chose sur l'attractivité du portable? Et puis, peut-être pour Aurélia Schneider, la notion de pleine conscience. On en parle beaucoup, on en parle pour beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait se dire, en pleine conscience, je vais utiliser mon téléphone et donc parvenir moi-même à l'utiliser moins?
Michael Stora.
Oui, en effet, ça a été une expérience qui avait été menée sur le fait de mettre en noir et blanc. C'est un petit peu, on parlait de pâtisserie tout à l'heure, parce que oui, on sait que ce côté acidulé, des couleurs très vives, va capter l'attention d'autant plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas mettre en noir et blanc? Mais c'est vrai que finalement, on a envie de se dire qu'à un moment ou à un autre, c'est un peu une mesure, une mesurette, comme on dirait. Je crois beaucoup plus à l'idée, un moment de delight, comme on dit, d'effacer.
Et Aurélia Schneider?
Alors moi, je suis tout à fait pour la notion de temps dédié. Mais je vais le faire à l'envers. C'est d'abord la notion de temps dédié à ne pas. Et d'avoir une petite victoire sur des temps très courts où l'on n'a pas, justement, accès à ces réseaux parce qu'on a délibérément laissé le téléphone dans une autre pièce, dans un tiroir, dans un placard. Et il faut être très très modeste quand on obtient déjà 20 minutes de ne pas. Parfois, c'est déjà très très bien.
Allez, il est temps de vous retrouver. Tiens, Aurélia Schneider, c'est l'heure de vos choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Non, non, elle est vraiment psychiatre, René Schneider.
Alors, chère Ali, imaginez, jeudi soir, 22h, je suis en train de bosser sur mon ordinateur. Depuis un moment déjà, mon fiston de 16 ans est à la fois sur le canapé et son téléphone. Échange classique qui se produit tous les jours dans des millions de familles. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Comment ça, rien? Si, si, un truc, mais laisse tomber, ça va pas t'intéresser. Je laisse tomber. 23h30, j'ai bien avancé, mais je n'ai pas vu le temps défiler, lui non plus. T'as vu l'heure? Non. Tu crois que t'as passé combien de temps là sur ton portable? Je sais pas, 20 minutes? Non mon gars, plus d'une heure et demie. Allez au lit, il est beaucoup trop tard et en plus il y a un devoir sur table demain, c'est nul! Prise au pied de la lettre, ce dialogue est effarant. Il passe des heures à faire rien, ou des trucs pas intéressants. Total des courses, il va finir sa nuit demain matin pendant son contrôle de maths. Va se planter, sa moyenne va chuter. Très mauvais ça pour le bulletin, pour Parcoursup. Tout ça pour des vidéos d'illustres inconnus au succès planétaire, de pauvres gens qui se cassent la figure, ou encore de chatons acrobates, toutes devenues virales en quelques clics. Et aussi le risque de tomber, je le cite, sur des contenus inappropriés. Il le vit et heureusement il le dit. Je culpabilise, j'aurais dû être beaucoup plus vigilante. Lui, il va dormir, et encore pas sûr, avec la lumière bleue de l'écran qu'il aurait dû éteindre une heure avant de se coucher. Moi, je vais ruminer. Mes consolations, peut-être qu'il perfectionne son anglais s'il le regarde en VO. Peut-être aussi qu'il s'offre un espace de rêve et de socialisation nécessaire à son épanouissement. Mais surtout, on se parle gentiment. Il va au lit sans négocier. Et enfin, un acquis historique notable. Il laisse son greffon dans le salon. Ce qui est une énorme victoire quand on pense que le lendemain, à 7h, il n'y aura pas moins de 150 messages et notifications diverses, chat entre des potes du groupe de classe qui ont continué les discussions. En tout cas, une chose est sûre, les psys ne sont pas meilleurs que les autres parents pour résoudre ces problèmes. Il n'existe pas de martingale infaillible. Toutefois, voici quelques propositions simples que je souhaite partager. Elles nous ont bien aidés, mes patients et moi-même, à limiter un peu les dégâts. Elles sont à dégainer dès que possible. Il n'y a pas d'âge pour avoir une bonne hygiène de vie. Nous devons, adultes référents, nous intéresser à ce qui passionne tant nos enfants. Leur demander de se servir des appareils uniquement dans l'espace commun, à des horaires déterminés. Et puis nous devons montrer l'exemple, faire ce que nous appelons en thérapie comportementale et cognitive du modeling. Éteignons notre smartphone pendant les repas, ne dormons pas avec lui. Soyons capables de différer nos envies impulsives, de hiérarchiser nos priorités. Ces recommandations ne sont pas exhaustives et pas toujours faciles à suivre, mais elles sont précieuses. Elles nous aideront tout au long de notre vie à protéger ce que nous aimons, nous-mêmes, et à savourer entièrement l'instant présent.
Les très bonnes recommandations du docteur Aurélien Schneider, vous approuviez, Michael Stora?
Oui, moi j'approuve l'idée surtout de partager l'écran. Ouais. Je pense qu'il y a un fossé générationnel qui n'est pas toujours très bon. Les parents ont peur, les adolescents, ça les fait kiffer, comme on dit, parce que bah, c'est au moins un espace transgressif. Et je crois beaucoup à l'idée de partager. Et moi-même, quand mon fils me parle d'une vidéo d'un rappeur sur YouTube, je la regarde avec lui. Après, je lui montre ce que j'ai pu connaître moi dans ma propre adolescence. Et ça crée un échange. Je crois vraiment cette idée de faire des écrans, des alliés dans la dynamique familiale.
Et Aurélien, j'aime beaucoup l'idée du greffon.
Ah oui,
c'est une très très belle image. Vous pouvez partager la chronique d'Aurélien Schneider, Les choses vues, sans modération, sur l'appli France Inter. Allez, comment utiliser sainement son portable et les réseaux sociaux? On vous donne quelques pistes juste après. Joy Crooks, c'est très très beau ça, Joy Crooks, When You Were Mine.
Summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, least not that way, but someone better want me like that someday. Shoulder, smile with the bricks inside, but you weren't that kind.
Pour Joel Crooks, When You Were Mine.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi, sur France Inter.
10h48, quand nos téléphones et nos réseaux sociaux manipulent notre cerveau, c'est notre thème ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho. Cerise nous écrit « Toujours un bon livre dans mon sac, ça m'évite plein de moments sur mon téléphone et réseaux sociaux. Je fais partie des gens qui pourraient y passer des heures, donc je cherche constamment des solutions de substitution. Et de temps en temps, j'oublie mon téléphone quelques heures et à chaque fois, ça fait du bien. » Pauline, le plus effrayant, c'est quand mon téléphone me notifie le dimanche, le temps passé sur mon téléphone dans la semaine avec le détail des applications consultées. Je n'ai pas l'impression d'y passer tant de temps que ça, mais parfois j'y passe 4 heures par jour, même si c'est souvent pour les besoins de mon travail. Et puis Christophe nous dit « J'ai décidé d'abandonner mon smartphone depuis maintenant 2 mois. Je souhaitais pouvoir en mesurer l'impact sur ma vie. Finalement, je consulte mes mails quand je le peux sur PC. Je rate, entre guillemets, tous les échanges sur les réseaux sociaux en journée et je n'ai plus cette instantanéité, mais cela ne me pèse pas plus que ça. D'après les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, cela donne un mois et demi par an sur nos smartphones. J'ai choisi de mettre à profit ce mois de l'année pour créer du lien, du partage dans la vie physique. » C'est important ce que nous dit Christophe, Michael Stora. Je rappelle que vous êtes psychanalyste. Vous nous dites dans votre livre « Réseaux à sociaux » qui est absolument passionnant, que cet usage, cet hyper-usage, eh ben, ça nous rend moins empathiques et beaucoup plus individualistes que par le passé.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée que finalement on est quand même seul ensemble d'une certaine manière et que, comme vous le savez, la sensorialité la plus empathique, ça reste le toucher. Le visuel et le sonore ne sont pas aussi empathiques que le toucher. Et finalement, idéalement, normalement, le virtuel devait servir le réel. On est en train de se rendre compte que c'est l'inverse et que ces entreprises prônent un bonheur numérique qui est une forme de nouvelle dictature du bonheur.
Les GAFAM, hein, les Google, GAFAM, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
Tout à fait. Et finalement, c'est terrible parce que je vous dis ça d'autant plus que j'ai participé à une étude faite par une agence qui s'appelle Freud, ce qui est assez étrange, sur le bonheur numérique, et pour découvrir derrière que c'était Google. Et ça faisait froid dans le dos, parce qu'ils veulent, entre guillemets, vous avez des discours qui ressemblent étrangement à des gourous, qui veulent. Et je pense, en repensant au dernier, je crois que c'est Christophe, je ne le connais pas, mais je pense qu'il va plutôt bien. Parce que finalement, plus on va bien dans sa vie réelle, à un niveau amoureux, professionnel, social, et moins on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Ce que ça vient trahir, c'est que finalement, beaucoup de nos contemporains ne vont pas très bien. C'est ça, moi, que je perçois. C'est terrible à dire, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, si on a des sources d'épanouissement dans un monde bien réel, on n'a pas autant besoin d'aller sur les réseaux sociaux.
Catherine Lejal, sociologue.
Tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que nous, on l'a vu encore dimanche après-midi, des ados, vous leur proposez de faire des jeux de société, ils lâchent absolument tous les écrans. C'est aussi qu'on n'a pas toujours le temps de s'occuper d'eux. Et je trouvais passionnante votre chronique. Et je trouvais intéressant aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'ils regardent. Et on n'a pas parlé des influenceurs. Et ces nouveaux gourous qui finalement leur disent, leur préconisent ce qu'il faut acheter comme crème contre l'acné, comme donc il y a ces influenceurs, hein, les Enjoy Phoenix, etc. Et aujourd'hui, les GAFAM créent, et les agences, des influenceurs virtuels, qui sont des robots pilotés par de l'intelligence artificielle. Des gens comme Lil Miquela, Bermuda, les Hatsune Miku, etc. C'est en fait des influenceurs virtuels. En France, on a une société qui s'appelle Wands, qui a créé une influenceuse virtuelle qui s'appelle Gaïa, qui font des playlists et qui, par exemple, reçoivent 7000 euros pour un poste, pour recommander quelque chose. Donc déjà qu'on est des influenceuses virtuelles, il peut y avoir une attractivité physique, une proximité sociale du jeune par rapport à cet influenceur, il a envie de lui ressembler. Mais là, on franchit un pas, c'est carrément des influenceurs virtuels, donc des robots pilotés par de l'intelligence artificielle. Donc on a Lil Miquela qui est la plus intéressante. En Corée, ils font ça avec du morphisme de visage, donc il y a vraiment une empathie de visage. Et là, je trouve que c'est une façon vraiment de nous manipuler, puisqu'on lui fait dire ce qu'on veut.
Oui, Instagram, c'est terrible, et des études ont montré à quel point ça a un impact sur la santé psychique des adolescents, d'autant plus les adolescenteux. Et on voit bien comment les influenceuses elles-mêmes prises dans le piège d'une sorte de ce qu'on appelle le faux self, hein, aussi concept de Winnicott, puisque le moi virtuel est quand même quotidiennement mise en scène, hein. Ce n'est pas de la production, c'est soi. Et que le moi réel s'appauvrit. Cette sorte de tension, à un moment, peut créer des formes de burn-out digitaux. Et en même temps, c'est un piège dans lequel beaucoup d'adolescents tombent, c'est-à-dire cette illusion de proximité propre aux influenceurs. Et en effet, les influenceurs 3D, comme une sorte de quintessence d'une perfection, d'une beauté à tout prix, qui est quand même une des choses les plus importantes comme capitalisme sauvage d'Instagram.
Vous citiez Donald Winnicott, un psychanalyste qui reste plus que jamais d'actualité.
Ah, totalement, toujours.
Depuis des années, tu te plains que Facebook n'a jamais mis en place de bouton « Je n'aime pas ». Et en réponse à cela, Facebook a créé en 2016 des nouveaux boutons appelés « Réactions » qui vont te rendre encore plus addict, car cela va toucher à tes émotions. La joie, la surprise, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur. Tu te dis que c'est super. Sauf que pour Facebook, ces nouveaux boutons sont surtout le moyen de collecter des données encore plus précises sur ce qui était jusque-là caché. Tes émotions. Car pour les algorithmes de Facebook, qui analysent en continu toutes tes données pour les monétiser, ces 6 réactions sont beaucoup plus faciles à analyser que des textes écrits dans tes commentaires. Ce qui va leur permettre d'optimiser ce que l'on appelle le ciblage comportemental. En ajustant ton fil d'actualité encore plus précisément pour provoquer la meilleure émotion susceptible de te faire passer des heures devant ton écran.
Extrait de Dopamine diffusé sur Arte, Michael Stora, sur cette manipulation des émotions qui nous incite à rester longtemps sur nos téléphones et réseaux sociaux.
Oui, alors Dopamine, c'est excellent. Je conseille aux gens de regarder. C'est très, très bien foutu.
Sur Arte.tv.
Sur Arte.tv. Oui, évidemment, le like, etc. Parce que derrière, il faut le savoir, le modèle économique de Facebook, c'est la captation de l'attention, l'économie de l'attention. Et aussi, à travers un ciblage incroyablement précis, simplement en likant. Non pas ce que vous postez, mais ce que vous likez. Et finalement, petit à petit, on se rend compte que nous sommes enfermés dans ce qu'on appelle le grand big data, qui est un modèle économique dans lequel on est finalement soumis à une sorte de variabilité nulle.
Pour se détacher de ces likes, de ces pouces levés, il faut comprendre pourquoi on est tant accro à cela. C'est assez important à comprendre.
Oui, je pense. Alors, tout en sachant qu'on a, on aime
ce besoin d'appartenance, fondamental,
besoin d'appartenance, vital. Ce besoin d'opinion, ce besoin de se sentir exister. Vous parliez de l'appareil photo. On se rend compte à quel point le fait de prendre autant de photos, c'est l'impression que si la chose n'est pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, il y a un enjeu quasi existentiel qui fait qu'on a besoin de liker, de se sentir exister.
Tiens, écoutons Lise qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour.
Moi, c'est Lise, j'ai 25 ans et c'est vrai que mon téléphone me prend beaucoup de temps de vie et du coup, dès qu'il sera cassé ou en fin de vie, je ne reprendrai pas de téléphone, juste un téléphone pour appeler et envoyer des messages parce que je me rends compte que on s'est plus ennuyé et dès qu'il y a un petit moment d'ennui, le téléphone est directement pris pour aller sur des jeux Facebook, Insta, voilà. Bonne journée.
Eh bien, Lise, vous ferez comme notre chère programmatrice Alexia Rivière. Son smartphone date de 2009. Et donc, elle ne peut faire que téléphoner, éventuellement prendre des photos. Enfin, voilà, et c'est très limité. C'est une solution, Michael Stora.
Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette idée de « Oh, je l'ai fait tomber, il est mort, bah, ça y est, j'ai plus ». Mais c'est vrai que c'est intéressant, elle a 25 ans, je crois. Ouais. Hein, et on est en train de se rendre compte que ce qu'on appelle la fameuse génération Z décroche. Comment ça décroche ?
C'est pas la génération Zemmour.
Non, rien à voir. Non, non, faisons attention à ne pas confondre. C'est une génération qui est née quand même avec les applications, hein, qui a un rapport incroyablement, la génération 4G, entre guillemets, et finalement, ils commencent à privilégier le monde bien réel.
Un dernier conseil pour se détacher, peut-être, Catherine Lejal, pour être moins connectée.
Bah, profiter de ce que les bars, les bistrots, tout est rouvert pour voir ses amis, manger avec les gens, parce qu'effectivement, tout ce qui est kinesthésique, le fait de se voir, un vrai éclat de rire partagé, c'est ce qui est le plus intéressant.
Michael Stora.
Moi, je vais plus loin, hein, décrocher des réseaux sociaux, vraiment. Et c'est vrai que peut-être que ça va vous manquer au début, mais au bout d'un moment, vous allez voir, tout ça est très vain.
Moi, je suis très heureux de n'y avoir jamais mis le doigt, honnêtement. C'est, oui. Docteur Schneider, un dernier conseil pour la route.
Eh bien, apprendre à différer déjà, passer moins de temps, c'est sûr, mais attendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant de saisir l'appareil.
Merci à tous, hein. Merci Michael Stora. Je recommande Réseaux Asociaux. Découvrez le côté obscur des algorithmes. C'est publié chez Larousse. Merci Catherine Lejal. Il y a quelques années, vous aviez publié un très intéressant et très pratique « J'arrête d'être hyper connecté ». C'était chez Erol. Et merci Cécile Lestienne, le tout nouveau numéro de Cerveau et Psycho, smartphone et réseaux sociaux, les 6 biais cognitifs qui rendent accro. Merci beaucoup Aurélie Schneider.
Merci
et Marie-Laure Sunshine. Demain, nous vous délivrerons des armes très concrètes, très pratiques contre le harcèlement scolaire.